Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Jean Druel.
Bonjour Nathalie.
Alors, merci de votre fidélité. Voilà, vous êtes auteur de ce livre, Les échecs de Jésus, une chance pour notre espérance. On va parler un peu d'espérance au cœur de l'échec parce que, et là je pense à ceux et celles qui vous ont suivi, certains se sentent peut-être dans leur vie ordinaire avec une plus multiplication d'échecs, échecs sur échecs. Et il est ô combien humainement parfois difficile de se remettre en route, de se reprendre cette posture d'être relevé, d'être debout, cette stature d'être debout, d'être vivant, voilà, d'être vivant. On a évoqué, et vous êtes revenu à plusieurs reprises sur cet évangile de Marc, un évangile qui est peut-être plus accessible à lire, voilà, donc si on n'a jamais lu, lisez cet évangile de Marc. Jésus, un échec, en apparence un échec, sur cette croix. Que signifie profondément ce cri de Jésus sur la croix ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Que dit-il et que nous dit-il ?
Waouh ! La question... Donc d'abord, ça c'est le cri de Jésus en croix dans l'évangile de Marc, qui culmine, donc il ne faut pas oublier, indépendamment de toute vérité théologique et historique, et il y a d'abord la vérité littéraire de l'évangile, et donc on a vu que Marc construit un Jésus de plus en plus seul, ça culmine dans cette solitude où il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans les autres évangiles, Jésus ne demande pas « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il y a clairement une construction littéraire, il ne faut pas non plus essentialiser ce cri comme si c'était la dernière parole du Christ en croix, c'est la construction littéraire de l'évangile de Marc qui est le point de culmination de toute une série d'abandons où Jésus meurt seul et l'espérance... c'est que Jésus n'a pas entraîné les gens au martyre, il ne nous force pas au martyre, il ne nous impose pas de le suivre à la croix, il meurt seul. Voilà, donc c'est un premier point, je pense que c'est important de dire. C'est de la théologie, c'est de la narratologie, c'est, voilà, avant d'être une vérité ontologique, existentielle sur Dieu qui aurait abandonné Jésus. Il ne faut pas d'emblée aller dans ce genre de lecture. Après, je vais peut-être faire une lecture plus personnelle, une fois que j'ai dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a parlé de cette construction littéraire d'un Jésus qui meurt libre et seul, et qui culmine dans ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être proposer une lecture plus personnelle. Et là, j'entraîne absolument personne avec moi là-dedans, je vous laisse tous libres d'en faire ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'au moment... Si je relis l'évangile de Marc avec, en ayant découvert qu'il y a une sorte de incarnation progressive, avec toutes les guillemets possibles et imaginables, de l'Esprit-Saint en Jésus, c'est-à-dire que la divinité de Jésus inonde son humanité, et c'est pour ça qu'il change, et c'est pour ça qu'il apprend, et c'est pour ça qu'il grandit dans l'évangile, et que ses plans du début sont pas ses plans de la fin, ses connaissances au début sont pas ses connaissances à la fin. Il y a une espèce d'inhabitation progressive ou d'incarnation, mais comme un processus. Ce processus est achevé au moment de sa mort. Il est entièrement Dieu. Et donc, il n'y a pas d'autre Dieu vers qui se tourner. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que c'est lui Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas cette altérité qu'on peut, d'un point de vue humain, ressentir quand on est « moi et Dieu, moi pécheur, Dieu sait que je suis pécheur, moi faible et infidèle et fatigué, fragile et lassé, etc. etc. » Et je peux avoir, et c'est normal, un sentiment d'altérité. L'Esprit-Saint vient à mon aide, l'Esprit-Saint habite en moi, l'Esprit-Saint me console. Mais à la fin de sa vie, quand Jésus est entièrement inondé de l'Esprit-Saint, entièrement d'une certaine manière, divinisé, il a actualisé cette divinité qu'il a de toute éternité. À la fin de sa vie, au moment où il est entièrement nu, dépouillé de tout, totalement seul sur la croix, il est pleinement Dieu. Et tout à coup, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu vers qui se tourner. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien réfléchir un jour, à ma hauteur et avec mes moyens, et etc., etc. Mais ce sentiment que Dieu se tait, que parfois on peut avoir, ce sentiment que de nuit mystique, ou même les grands mystiques nous disent, à un moment, on a l'impression que... Mais c'est parce qu'ils sont devenus Dieu.
On pense à Mère Teresa.
Mais c'est parce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus la présence totale de ce Dieu dans leur vie humaine. Et il n'y a et donc si Dieu peut-être se tait, c'est parce que il n'a pas d'autre parole que la mienne que je suis devenu. Alors j'en suis pas là, bien sûr, mais je suis en train de dire que il y a peut-être, ça c'est très personnel et je ne suis pas en train de l'imposer à personne, mais l'idée qu'au moment où Jésus meurt, il a entièrement accompli ce chemin de laisser l'Esprit Saint être entièrement lui en lui et que il ne trouve pas de divinité en dehors de lui. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'ai presque envie, sans blasphème, de répondre « parce que c'est toi, parce que je le suis devenu, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. »
Alors on peut continuer aussi à méditer, réfléchir et approfondir tout cela avec votre livre. On parle de cet échec et ces échecs de Jésus qui rejoignent aussi la vie certainement de chacun de nos auditeurs. Hein, peut-être ici présente mystérieusement dans la désolation devant des échecs répétitifs. Non à la désolation, mais oui à la résurrection. Et c'est sur une note de résurrection, il fallait passer par la croix. Il fallait que notre Dieu aille jusqu'au bout pour que s'accomplisse parfaitement, merveilleusement, cette résurrection. Et cette résurrection, est-ce qu'elle efface totalement, alors je vais reprendre le terme que vous employez, qui est un peu provocateur, mais l'échec de Jésus à la croix ?
Si... Encore une fois, l'échec, si on peut le considérer comme un cul-de-sac. Et les disciples eux-mêmes, à la croix, sont repartis chez eux tout tristes. Ils se sont dit, tout est fini. Et l'espérance, c'est de savoir et de vivre et de comprendre que l'échec est un point de départ, une expérience. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Et qu'est-ce que Dieu fait de la croix ? Il en fait la vie, il en fait la résurrection, il en fait le passage. Oui, je suis en échec sur mon mariage, sur ma carrière professionnelle, sur l'éducation de mes enfants. Oui, je suis en échec. La question, c'est pas tout s'arrête. La question, c'est et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Si je peux me dire, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu de faire. Ça veut dire quoi sur moi ? Ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et maintenant, avec ce que j'ai. J'avais voulu une carrière brillante dans une... Voilà. Et bon, je n'ai pas les moyens, j'ai échoué. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ? Et je fais du bien et je fais du beau avec cet échec comme point de départ et comme expérience. Mais moi, je crois beaucoup à la force de l'expérience. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, je ne vais pas le gaspiller deux fois en n'en faisant rien. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour ce genre de vie, je ne suis pas fait pour ce genre de job, je ne suis pas fait pour ce genre de... Voilà, et maintenant... Et quelle chance ! Quelle chance de se dire, au moins ça, j'ai essayé, et c'est réglé, je ne suis pas fait pour ça, on passe à autre chose. Mais quelle chance !
Alors, vous avez entendu, ouvrez vos oreilles et votre cœur. Merci, frère Jean Druel. Alors, ça fait près de 30 ans que vous êtes entré dans l'ordre dominicain. On peut vous demander combien d'années de sacerdoce vous avez ? Vous avez dit, il y a combien de temps ?
23 ans, en 2002.
En 2002.
Juin 2002.
Donc, merci.
Merci beaucoup,
quand
Nathalie.
Quand je peux, je remercie aussi cette fidélité de nos frères prêtres, parce qu'il y a ce oui de tous les jours à redire. Vous avez parlé si bien de la fidélité que merci de votre témoignage de fidélité.
Merci beaucoup.
Donc, endurance, persévérance. Et je vais vous demander, en tant que prêtre, les auditeurs vous ont écouté, vous ont suivi, vont devenir, et je vous conseille, chers auditeurs, si vous souhaitez aller plus loin, et puis dans la lecture, pour nourrir votre cœur, lisez ce livre aux éditions du CERF, Les échecs de Jésus, une chance pour notre espérance. Donc n'ayez pas peur, je vais vous demander de terminer avec une bénédiction aussi pour nos auditeurs, puisque vous êtes prêtre depuis 23 ans. Mais merci à vous et je vous souhaite donc un bon retour au Caire et puis de très très belles missions.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur nous éclaire tous pour nous apprendre à voir nos échecs comme des portes ouvertes sur un nouveau, sur un avenir, sur une nouvelle vie. Que le Seigneur nous accompagne dans ses choix, d'échec en échec, ou plutôt de départ en départ, vers sa vie donnée, notre vie donnée, pour que le monde vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen.
Merci frère.
Merci Nathalie.